Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI. Bien sûr, après cette première demi-finale de Ligue des Champions et la victoire de la vieille dame qui a donc fait tomber les champions d'Europe en titre, la Juventus de Turin a battu le Real Madrid 2-1 à l'issue d'un beau match, d'une belle opposition dans un stade où l'ambiance était celle des grands soirs. Tout le monde était à la hauteur au Juventus Stadium, nous allons y venir. Et les Turinois, champions d'Italie, iront donc à Madrid avec un petit but d'avance. Le débrief de cette première demi-finale donc de Ligue des Champions dans quelques instants avec Nabil Djellit et Patrick Juillard. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Annie.
Et Alejandro Valente. Bonsoir Alejandro.
Bonsoir Annie.
En deuxième partie, eh bien, nous évoquerons l'autre affiche qui sera sûrement aussi passionnante. Ce sera Barça-Bayern et surtout le Camp Nou assistera au retour de l'enfant prodigue sur la pelouse catalane du quartier des Cortes. Pep Guardiola sera sur le banc, mais du côté des adversaires du soir, et il entraîne désormais les Bavarois ambitieux et qui jouent ou tentent de jouer à la barcelonaise. Et puis la Ligue des Champions version africaine, tirage au sort, c'était ce matin au Caire, et un groupe qui ressemble à un mini championnat algérien, tout sur le groupe A et le groupe B, et sur les affiches de la Coupe de la Confédération africaine, et pour les détails, surtout notre site africfoot.rfi.fr. Radio Foot, on y va! Allez, vous chantez ? Non ?
Non, vaut mieux pas, il va pleuvoir.
On dirait une chanson d'Eros Ramazzotti. Je parle pas italien, mais ça me...
Peut-être, en tout cas...
Je sens qu'on peut séduire prise. Avec.
On reconnaît que les Italiens n'ont pas inventé l'opéra pour rien. Ça chante bien.
En tout cas, ils ont chanté avant le match, ils ont surtout chanté après ces supporters de la Juventus de Turin. Les joueurs sont allés sauter devant eux, les saluer à ce public qui les a encouragés pendant tout le match. Une formidable ambiance et surtout un magnifique but, match. Alors but, on a eu des beaux buts, mais surtout un magnifique match. Nabil, on avait des doutes tout à l'heure en première partie, mais c'était pas...
Oui, on s'attendait à une défense de fer face à une attaque
de feu.
Finalement, on a eu une partie complètement équilibrée qui a tourné en faveur de la Juve. Une Juventus de Turin à qui il faut rendre hommage, j'ai regardé tout à l'heure un peu les statistiques, en l'espace de 10 minutes face au Real, s'est procuré plus d'occasions que l'Atlético Madrid en 180 minutes sur le tour précédent. Il y avait tous les ingrédients était là, une magnifique ambiance et un très grand match.
Beau match, quelle
note.
Ah
oui, super match. J'avais dit avant le tirage au sort que pour avoir une chance, pour espérer, la Juve devait tomber sur le Real. Ça s'est un petit peu confirmé. On a vu un Real avec un milieu de terrain un peu bancal, avec beaucoup de joueurs qui n'étaient pas à leur poste. Puisque un seul être vous manque et tout est dépeuplé puisque Modric ne jouait pas.
Ouais, Alejandro, une note à ce match ou une...
Oh, je mettrais un 8, je pense que...
Pas sur 20
10,
alors
8 sur 10, 8 sur 10.
Rassurez-nous.
Sud-américain, c'est toujours sur 10.
Mais je pense qu'Ancelotti avait un peu anticipé à ceux qui lui disaient ça va être comme l'Atletico, il avait dit
pas
non,
du
la
tout.
Juve veut garder le ballon, etc. On l'a écouté tout à l'heure et il avait raison finalement.
Mm-hmm, ouais. Donc justement, on va revenir sur ce match et c'est but marqué par les Italiens et les Espagnols.
Tevez dans la surface,
oh, il a bien fait
l'ouverture du score, Scuraro, Alvaro Morata, pardon, qui permet à la Juve d'ouvrir le score.
Rames,
voilà, c'est Cristiano.
Et l'égalisation, Cristiano Ronaldo, ça fait un partout. Marcelo qui a stoppé Morata dans sa course.
Oh, c'est poursuit. Penalty, bien sûr.
Penalty, évidemment.
Bien sûr.
Penalty, il faudra revenir sur la faute de Marcelo, là, sur Morata.
S'il l'est transformé, va nous changer la physionomie de la deuxième mi-temps, Christophe.
Eh oui, sur une sortie de corner. Hein. Allez, c'est parti pour Tevez.
Plein centre, Carlos Tevez, qui redonne l'avantage à la Juve. 2-1 ici au Juventus Stadium.
sur ce contre fulgurant qui a amené le pénalty.
2-1, c'était donc le score final de ce match avec les commentaires de nos confrères de beIN Sport, Christophe Joff et Eric Dimeco. Le premier but, il arrive sur une action extrêmement rapide et qui va se conclure par un but très vite. Ils surprennent le Real.
Oui, ils surprennent, ils les prennent à la gorge et puis on se rend compte qu'il y a de la fébrilité dans cette ligne arrière du Real, qu'on a vu d'ailleurs pendant tout le match. Varane a été loin d'être impérial. Casillas n'a pas non plus rassuré, sans parler de Ramos, mais ça c'est encore autre chose. Et puis voilà, l'opportunisme de ce garçon, Alvaro Morata, un prêté pour un rendu, lui prêté par le Real, qui vient crucifier ses anciens partenaires avec ce but plein d'opportunisme. Donc c'est vrai que ça a eu le mérite de tout de suite ouvrir le match.
Patrick.
Oui, pareil, je trouve que beaucoup de joueurs ont été déplacés dans cette équipe puisque Ramos était au milieu dans un rôle un petit peu de sentinelle.
On l'avait déjà vu dans ce rôle, hein, dans le Classico.
Premier relanceur, alors que c'est pas quand même si c'est un bon footballeur, c'est pas sa qualité première.
Oui, on a vu des transversales qui
Varane
partaient dans le décor.
Devait souvent compenser tout seul. Derrière, il a pas toujours été très bon dans ses courses et ses placements.
Sur les pénaltys notamment. Hein.
On sent qu'il y avait une fébrilité certaine en défense. Il y a eu beaucoup de relances ratées. Les deux débuts de mi-temps particulièrement ont été très mauvais du côté du Real à ce niveau-là. Beaucoup de ballons rendus à l'adversaire et finalement la Juve a su bien en profiter.
Alejandro ?
Disons qu'on a vu dans ce match un peu les problèmes qu'on observe dans l'équipe du Real Madrid depuis le début de l'année. C'est une équipe qui s'appuie beaucoup sur la qualité de certaines de ses individualités, mais qui collectivement ne dégage pas toujours un jeu très cohérent. Et l'absence de Modric aggrave fortement la situation, car Ancelotti estime ne pas avoir le choix, alors que théoriquement il l'aurait, parce qu'il est à Khedira, qu'on a choisi de ne plus aligner parce qu'il va partir. Et surtout, il y a Ramendi, un joueur sur lequel il comptait beaucoup. Et c'est vrai qu'Ancelotti, quand on l'interroge à ce sujet, il laisse comprendre clairement qu'il y a Ramendi, en fait, est un joueur qui a trop peur dans les grands rendez-vous. Il n'a pas du tout confiance en lui. Et il a préféré mettre Ramos depuis quelques matchs plutôt qu'il y a Ramendi. Mais on a vu les limitations de Ramos dans la qualité de ses relances et
le jeu long,
son positionnement, voilà.
Mais la Juventus, déjà, c'est quand même la bonne impression qu'elle laisse à l'issue de ce match, Nabil.
Oui, parce qu'on était resté un peu sur l'affrontement face à Monaco.
Bien sûr.
Ça s'est joué sur un pénalty.
Le
un
côté
peu
moche mais efficace, comme l'avait résumé Patrick Evra.
Non, il y avait tout ce soir. Il y avait du talent, de l'abnégation, il y avait l'âme aussi. On a ressenti une âme dans cette équipe à l'image de Chiellini, qui voilà, il nous a rappelé
le
un
grand
peu
guerrier. Hein.
Ouais, avec le sang, il nous a un peu rappelé. Vous savez, ces grands moments de football, où on voit des joueurs qui continuent même blessés, Beckenbauer ou d'autres dans les années 80. Voilà, ça nous a replongé même dans une autre époque. Il y avait une vraie confrontation entre les deux équipes. Et puis on va en parler. Moi, franchement, il y a un joueur que j'adore, qui me bluffe complètement.
C'est Vidal.
Thiago Motta, à qui on demandait l'année dernière qui il aimerait voir être recruté par le Paris Saint-Germain. J'ai bien retenu cette phrase-là. Et il leur a dit comme ça: vous me parlez beaucoup de Pogba, mais moi, s'il y a un joueur que je dois ramener, c'est Vidal, le Chilien qui joue à la
Juve. Il ne l'a jamais et il est toujours là,
pourtant,
très hargneux.
Au début de saison, on lui reprochait un certain manque de discipline dans sa vie privée, d'être un petit peu fantasque,
ça
etc.
Va, parce que là, sur le terrain, la discipline, il y a
apparemment, ça lui réussit plutôt bien.
Et finalement, il a bien, il est revenu dans la confiance. Il est
extraordinaire parce que
la Coupe du Monde, on l'avait vu extraordinaire avec l'équipe du Chili.
Il a tout.
Il est là
était
dans
une des meilleures équipes de cette Coupe du Monde.
Lui, il est là dans les grands rendez-vous.
Il a une gueule, il a un style. Et ce soir, c'est pas Sassuolo en face.
Il a une coiffure aussi.
Non, mais c'est pas Sassuolo. C'est-à-dire qu'il était d'un bout à l'autre du terrain, capable de venir, arracher un ballon dans la surface,
se battre
et être capable de faire le jeu. Ce soir, il a montré toute la panoplie d'un milieu de terrain de très haut niveau.
Et justement, un petit commentaire sur ce match avec un des joueurs de la Juventus, et c'est celui qui parle français, Patrice Evra.
Le plus important, c'était de gagner. C'est vrai que c'est dommage qu'on prend ce but, mais à l'arrivée, on gagne. C'est l'essentiel. Vous savez, si on va à Bernabeu, on fait match nul, on est qualifié. Donc à partir de là, il n'y aura pas ce but qui vaut double. Mais voilà, je suis content vraiment de la prestation de tous mes coéquipiers. On avait bien préparé ce match, on a montré un beau visage de la Juve. Et voilà, on a avec impatience de faire ce match retour.
Patrick, ils l'ont emporté en plus sur le score de 2-1, mais c'est vrai que sur la fin de match, ça aurait pu être avec une tête de Llorente, ça aurait pu pratiquement être 3-1. Ils ont gâché peut-être une occasion.
Llorente a deux occasions, une où il peut dribbler Casillas ou lui faire un piqué, la deuxième où mettre la tête. Je constate qu'Evra est meilleur quand il n'a pas à rechercher le traître. Là, il est sobre, il fait ce qu'on lui demande de faire. C'est pas exceptionnel, mais c'est au moins du bon travail défensivement parlant. C'est discipliné, c'est propre. Pour parler de la Juve, je suis pas tant étonné que ça parce que c'est une équipe déjà très expérimentée. Si on prend la moyenne d'âge, bien sûr, elle est largement la ça, plus élevée du plateau.
Vraiment de son côté.
Et ce sont des joueurs qui ont tous beaucoup gagné dans leur carrière, qui ont la culture de la gagne, qui ne lâchent rien. Même si peut-être que si on fait la somme des individualités par rapport au Real ou au Barça ou au Bayern, ils sont en dessous. Mais quand même, c'est pas rien d'avoir des Pirlo, des Tevez,
voilà, et autant dans leur club que dans les équipes nationales en plus. C'est vraiment
la preuve que collectivement on peut dégager une force que même des grandes individualités
n'ont pas. Ils sont plus que la somme de leurs individualités.
Et ne pas se contenter en plus de.
Ils ont été plus près du 3-1 qu'on l'était du 2-2.
Exactement.
Mais ce but il coûte cher quand même. Je pense qu'on va en reparler parce que c'est vrai qu'on s'emballe parce qu'on a pris du plaisir à regarder cette Juve, mais quand même au match retour 1-0 suffirait au Real en sachant que qu'ils vont avoir une réaction
d'orgueil. Mais quand on se rappelle, contre l'Atlético ils ont eu beaucoup de mal à marquer ce but, et contre Schalke on se souvient
exactement,
quand même.
Exactement, et ils prennent surtout des buts, ils prennent des buts, c'est-à-dire ils pourraient très bien marquer, mais ça, rien ne dit qu'ils arriveront à rester inviolés chez eux. Quoi.
Peut-être que les grands absents du jour seront de retour, on peut penser à Benzema quand même.
Benzema peut-être, mais c'est toujours délicat pour un joueur de revenir pour un grand rendez-vous comme ça, d'autant que le Real ne pourra pas vraiment se reposer ce week-end, car ils ont un gros match contre Valence, et ça risque
aussi.
Et
c'est à Valence ou c'est au Real?
C'est à Bernabeu, mais ça risque quand même de peser sur la qualité de la récupération de ces joueurs.
Alors que dans le même temps, la Juve, qui a déjà assuré le titre, elle est tranquille, elle peut faire tourner tant qu'elle veut et préparer à fond son match à retour à Madrid.
Après, il y a eu des fantômes ce soir, on va se le dire clairement. Je pense que là, ils vont se faire ramasser par la presse espagnole. Bale, on l'a pas vu. Il a essayé de passer une ou deux fois sur le côté de Evra. Bah, Evra a plutôt bien fait le boulot. Ramos, on va tirer sur l'ambulance. Bah, pour le coup, c'est vrai que autant en championnat d'Espagne, il a été pas trop mauvais au poste de sentinelle. Autant là, l'intensité est
on peut pas lui demander
de récupérer le ballon et de faire des relances à la Pirlo. Il sait pas faire les deux. Donc bon.
Oui, et puis il a pas la qualité de jeu long d'un Xabi Alonso, par exemple, qui peut faire une passe de 40 mètres qui arrive dans les pieds.
Oui, on voyait très bien.
Elles sont parties. C'est un peu au petit bonheur la chance.
C'est pas pareil de jouer à un poste comme ça, qui n'est pas les siens, contre le Celta Vigo, par exemple, ou contre la Juventus.
En tout cas, on promettait à Musso Duro, comme avait dit le journal italien, c'est-à-dire à la dure, ils vont se battre ces Italiens. Et dans les statistiques qu'on a pu noter à la fin du match, alors bon, pour ce qui était de la possession de balles. Pour la première mi-temps, c'était 52% de possession du côté de la Juve. Ça s'est inversé ensuite. En deuxième mi-temps, on a vu qu'ils ont un peu souffert.
Oui, ça a alterné entre les deux équipes.
Effectivement, mais c'était à peu près équilibré. Sur les duels, duel gagné à peu près 50-50. Par contre, les duels aériens, 68% de duels aériens gagnés par la Juve. C'est là qu'on voit le Musso Duro, justement, à la dure, c'est ça.
C'est énorme. Et puis quand on voit la charnière centrale, là, les défenseurs de la Juve, Bonucci,
Chiellini,
il faut aller les chercher, ces garçons-là. Ils sont durs au mal, ils y vont. Et je pense que même, vous savez, ils me font penser à ces défenseurs qui, dès le coup d'envoi, vont tester tout de suite l'attaquant, lui mettre un coup pour lui dire on est là, quoi. C'est typiquement ce profil de joueur.
Mais ils savent très bien qu'en plus sur ces matchs-là en particulier, il y a une sorte d'impunité en début de match, que si on fait on l'a bien vu à Monaco, si on fait une grosse faute dans les 5 premières minutes, on n'aura pas un carton rouge. Donc ils savent très bien s'en servir, ils intimident. On peut observer sur ce match qu'aucune des deux équipes n'avait sa BBC, puisque il manquait le B de Benzema au Real, il manquait Barzagli au coup d'envoi côté Juve, et qui souvent joue à 3 centraux. Là, on avait plus un schéma calqué sur celui du Real, finalement. Deux sortes de 4-4-2 un peu contraints.
Mais c'est vrai qu'Allegri aime bien.
Mais ça a fait mieux fonctionner pour l'Italie.
Voilà. Et il aime bien.
C'est un pragmatique.
On a vu même qu'il a attendu l'entrée de Chicharito pour voir exactement comment il allait repositionner ses joueurs.
Alors, qu'est-ce qu'il a manqué au Real, finalement, Alejandro? C'est pas seulement ses absents, parce que même Cristiano Ronaldo, il est là quand il le marque, ce but. Ouais. Il y a eu beaucoup de ballons aériens pour justement forcer ce verrou italien.
Leur animation, je pense qu'ils ont perdu la bataille du milieu sous l'impact de Marquisio, et notamment de Vidal, qui a été monstrueux. Je crois que c'est un peu, alors même s'ils défendent en 4-4-2, même lorsqu'ils évoluent en 4-3-3 en attaque avec Benzema. Moi, je suis pas convaincu par cette animation avec Bale et Ronaldo l'un proche de l'autre.
Ah dans non, un... ça c'est pas bon du tout. Ça ne marche que quand il y a un point de fixation axial et les deux qui étirent la défense. Si effectivement ils jouent tous les deux en repiquant vers l'axe,
ils se ressemblent presque trop. En fait.
Alors c'est vrai que Marcelo prend bien l'espace sur le, sur son côté. Il a fait un très bon match. C'était sûrement le meilleur Madrilène ce soir et ça fait depuis quelques semaines que c'est probablement le meilleur de l'équipe.
Il a perdu beaucoup de duels aériens à cause de sa taille.
Ouais, puis à Séville, il avait pris cher aussi.
Oui, hein. Mais dans la remontée de balle, c'est lui qui a été au niveau, qui a mis l'agressivité et la vitesse nécessaire, mais il n'a pas été suivi, quoi. Donc, c'est compliqué.
On peut dire aussi que Tevez a beaucoup pesé parce qu'il était toujours entre les lignes.
Il a dézoné beaucoup
au Real. Et il était très combatif, on l'a vu. Il était à l'origine quand même des deux buts de la Juventus. Et il a énormément gêné. On sentait qu'ils étaient rapidement déstabilisés par sa présence. Il y avait une grande combativité.
Ce qui est inquiétant, moi, ce que j'ai trouvé inquiétant du côté du Real, c'est lorsqu'il y avait des 1 contre 1 entre défenseurs centraux du Real comme Pep ou Varane avec les attaquants de la Juve. En général, un défenseur, ça prend le dessus 3 fois sur 4. Là, c'était une fois sur deux, c'était le mec de la Juve qui passait. Ça, quand vous retrouvez un contre un, c'est pas très rassurant pour une défense.
Et on a vu Casillas qui à plusieurs reprises a invectivé ses défenseurs. On sentait qu'il y avait une grande nervosité quand même. Ouais. C'est pas fréquent de voir Casillas s'emporter de cette manière.
Moi, pour résumer un peu ce qu'on peut dire sur ce Real, alors ils peuvent très bien passer au match retour et se qualifier. Mais je trouve qu'Ancelotti n'a pas trouvé son équipe type en fait. Et on voit bien la défense centrale, il navigue entre Ramos,
mais si t'as pas peur, Varane, tu fais jouer le Mexicain d'entrée. La vérité, c'est quoi?
C'est ce qu'il a fait à Séville, mais là, il a pensé que c'était plus prudent et sans doute aussi, il sait qu'en faisant cela, il fait plaisir à Florentino Pérez de mettre Bale d'entrée plutôt que Chicharito. Mais Bale a été comme un poulet sans tête. Parfois, il court, il court énormément, mais sans beaucoup de.
Bale, il est performant d'intelligence. Il est performant dans un couloir, il n'est pas performant.
Mais quand il n'y a pas d'espace, il n'est pas très efficace.
Il a besoin de vitesse et de jeu rapide vers l'avant. Ben, si on s'englue au milieu de terrain, il ne sert pas à grand-chose.
Alors comment imaginer le match retour, déjà se projetant un petit peu ce but d'avance? Bon, les Madrilènes ont marqué à Turin, donc un 1-0 à Bernabéu suffirait au Real Madrid. Alejandro?
Je pense que le Real, de toute façon, n'a plus trop le choix. Il faut qu'ils aillent gagner ce match, il faut qu'ils marquent des buts. Mmh. Donc, à mon avis, on verra peut-être un Real dans un dispositif plus offensif, surtout si Benzema revient. Quant à la Juventus, il faut surtout qu'ils ne fassent pas l'erreur qu'avait fait l'Atlético, qui avait été d'abandonner complètement le jeu au Real pour préserver le 0-0. Là, ils ont un but d'avance et il faut surtout qu'ils essayent de quand même garder suffisamment le ballon et de se créer des occasions, car un but pourrait leur ouvrir la porte de la finale.
Le Real est vulnérable même chez lui, donc même s'ils prennent un but d'entrée, il ne faut pas qu'ils se découragent, ils peuvent faire une défaite avec des buts qui les qualifieraient. Je pense que ça se jouera pas, effectivement, comme dit Alejandro, ça va pas se jouer en garant deux autobus devant les buts et en attendant que ça passe. Il faut faire plus pour sortir le Real. Et je pense qu'un homme va vouloir vraiment prendre sa revanche, c'est Cristiano Ronaldo, qui a quand même pas été transcendant ce soir, même s'il marque un but. Je crois qu'il va vouloir se payer la Juve presque à lui tout seul. Hein. Il rêve de ça, il rêve de qualifier tout seul comme un gladiateur le Real Madrid.
Oui, puis il joue surtout pour en revenir à Ronaldo, puisqu'il faut toujours polariser l'attention sur Ronaldo ou Messi.
Ah bah il a marqué le but quand même.
Ronaldo
ce soir,
sur une demi-finale comme ça, il joue aussi un Ballon d'Or. Non mais s'il sort en demi-finale de la Ligue des Champions, il y a pas d'Euro, il y a pas de Coupe du Monde à la fin de la saison. Et si Messi va au bout, si Messi va au bout, de toute façon c'est simple. Hein. Celui qui va au bout, il prend le Ballon d'Or. Hein. Ça soit Messi ou Ronaldo, c'est ce qu'il faut se dire clairement à ce niveau-là.
Thomas Müller.
Mais bon, je pense que c'est pas le plus important aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
C'est quand même pour le Real, c'est de ne pas finir aussi une saison sans titre.
Une saison vierge. Mais après, ça dépend aussi du retour des joueurs qui seront là, dans quel état de forme. Maintenant, la Juve doit absolument pas faire aussi l'erreur de faire ce qu'elle a fait à Monaco, parce qu'à Monaco, elle a accepté de subir. Elle a failli prendre des buts. Si elle fait la même chose face au Real,
ça passera pas.
Il faut qu'ils jouent un minimum. Et ils le peuvent, et ils ont les joueurs pour.
Oui, c'est la grande différence par rapport à Monaco. C'est ce que disait d'ailleurs Patrice Evra à la fin de ce match. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir aidés à faire l'analyse de cette première demi-finale de Ligue des Champions. Ce match aller. Et demain, il y aura l'autre rendez-vous, évidemment. On se retrouve dans la deuxième partie, justement, de Radio Foot pour évoquer ce Barça-Bayern. À tout de suite.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International sur RFI avec nos invités Rémi Ngono, Nabil Djellit, Carlos Pissarro et avec Olivier Pron qui est à mes côtés, car nous allons maintenant évoquer cette autre demi-finale, celle de ce soir. C'était l'affiche rêvée d'ailleurs d'une finale pour beaucoup de personnes, mais ce sera l'affiche et la plus alléchante pour nous de ces demi-finales de Ligue des Champions Barça-Bayern. Un face-à-face qui peut se décomposer sous différents aspects car il s'agit eh bien, du retour à la maison de l'enfant prodigue et le premier pour l'entraîneur qui a tout offert à cette équipe catalane. Pep Guardiola revient travailler à Barcelone, on l'avait vu hein, récemment, et discrètement en tribune pour observer ses Catalans qui jouaient contre Manchester City. Là, il sera là, eh bien, sur le banc adverse, face à nombre de ses joueurs, certains qu'il a façonnés, on pense bien sûr à Lionel Messi, mais aussi à Javier Mascherano, le rude défenseur argentin qui évoquait justement ses retrouvailles avec Pep Guardiola, et c'est au micro de François David.
C'est un entraîneur qui m'a beaucoup marqué et qui continuera de marquer ma carrière. Mais désormais, il dirige l'équipe rivale. Ça fera drôle de jouer contre lui, bien sûr, car je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui m'ont aidé. Et Pep en fait partie. Mais désormais, chacun fera en sorte que son équipe élimine l'autre. Nous comprenons que Pep est un grand fan du Barça. Mais son job, maintenant, c'est de qualifier son équipe pour la finale.
J'imagine que dans la presse espagnole, on en parle de cela, Carlos. Ce retour de Pep Guardiola, est-ce que ça peut avoir être un élément un peu perturbateur psychologiquement pour les joueurs?
Oui, évidemment, évidemment. Même tous les joueurs, je dois parler de Messi, qu'il a parlé pendant 20 minutes.
Ouais.
C'est quelque chose d'extraordinaire parce que normalement, il part pas pour la presse. Il a dit exactement comme Mascherano tout à l'heure, que voilà, il avait pris beaucoup de choses avec Guardiola. Et surtout, il y a une chose qui s'attire beaucoup l'attention, qu'une fois que Guardiola il est parti, ils sont plus parlés, tous les deux. C'est curieux. Ça donne un petit peu...
Ils se sont croisés par exemple, dans les cérémonies de
Ballon d'Or. Ils se sont parlés, ils se sont jamais téléphonés, ils se sont
jamais communiqué. Ouais.
On attend un petit peu, voilà, on comprend un petit peu Guardiola, comment il s'échappait un petit peu de No Camp, de la maison Blaugrana, avec tous les problèmes qu'il a eu à l'époque. Donc, forcément, évidemment, pour la presse, pour les publics, il y a beaucoup d'excitation de voir ça. Pas seulement le retour de Guardiola à la maison, sinon aussi les frères Alcántara qui vont s'opposer aussi sur le terrain.
Les frères Alcántara, c'est-à-dire Thiago Alcántara du côté du Bayern, qui revient là où il a été formé.
Voilà, ils sont frères
et
aussi.
Et son frère Rafinha.
Tout à fait. Donc c'est un petit peu le concept qu'il a pris la presse pour motiver, c'est la super excitation après l'apéritif entre Bayern et Real Madrid. Évidemment, c'est des vrais matchs. Non, sincèrement, c'est la vraie affiche des Champions en demi-finale.
Rémi.
Je devrais dire que Pep Guardiola s'est détaché du Barça depuis très longtemps. Oui. Déjà, ça ne veut rien dire que parce qu'on a, ça ne veut rien dire que parce qu'on a travaillé dans une maison et on y garde totalement une fidélité ou alors beaucoup d'amitié.
Rémi, c'est pas seulement ça. Il est catalan, il parle catalan, il a joué là. Il a entraîné cette équipe.
C'est le plus grand entraîneur de l'histoire du FC Barcelone.
Il a été formé.
Ça ne veut rien dire dans la mesure où on a souvent vu des gens éliminer même les équipes de leur origine, de leur origine. Ça ne veut rien dire. Mais même quand Pep partait, il ne parlait même plus avec Tito Villanova. Même Mourinho, il avait d'abord travaillé, ne serait-ce qu'au Barça avant de devenir l'ennemi du Barça. Aujourd'hui,
mais il est pas catalan,
quoi qu'on dise,
Mourinho.
Mais attendez, il y a un proverbe de chez nous qui dit, le poisson vit dans l'eau, mais c'est avec de l'eau qu'on cuit du poisson.
Oui.
Donc, dans tous les cas, moi, je ne vois pas parce que Pep Guardiola est catalan, parce qu'il est ceci. C'est à peu près comme un entraîneur français qui se retrouve en train d'entraîner une équipe du Sénégal ou du Cameroun. Quand on joue contre la France, alors qu'il est entraîneur du Sénégal ou du Cameroun, il souhaite l'élimination de l'équipe française.
Oui,
voilà la réalité.
Mais la question, si ce serait un élément psychologique perturbateur finalement du côté du Barça. C'est la question.
Est-ce que la présence de Pep Guardiola, d'ailleurs la question elle est posée à Nabil, à Carlos, est-ce que ça peut perturber le retour de Pep Guardiola donc sur le banc
avec
le Bayern,
est-ce
que ça peut perturber les joueurs du Barça qui ont été formés par Guardiola?
Ça peut les motiver, je vais vous surprendre. Ils ont un respect.
Mais psychologiquement, ça peut jouer.
Ils ont
aussi
un respect énorme pour Guardiola, tout ce qu'il a fait avec eux, mais peut-être qu'ils ont envie de dire que le FC Barcelone qui a tant gagné avec Guardiola, c'était aussi le FC Barcelone des joueurs. Donc c'est aussi une manière pour eux, pourquoi pas, de montrer que face à Guardiola, eux, les joueurs, Iniesta, Xavi, ils savent toujours aussi bien jouer et gagner. Maintenant, évidemment qu'il y a un contexte émotionnel particulier et évidemment que quand vous êtes catalan, c'est une identité régionale forte et forcément plus qu'ailleurs ou plus que dans d'autres coins.
Il y a 4 catalans, 3 catalans à l'intérieur de l'équipe.
Non, mais pour Guardiola, je veux dire, quand il revient.
Guardiola qui est catalan.
Guardiola, évidemment, pour lui, c'est, il y a quelque chose de, voilà, qui est fort. Et puis, il parlait, Rémi, vous parliez à juste titre, et je voulais vous poser la question, Juan Carlos. L'ombre de Tito Villanueva, elle peut aussi, pour Guardiola, être perturbante de revenir là, sur le banc, alors que.
Non, mais c'est pas lui qui joue.
Oui, mais quelques années auparavant,
ils étaient ensemble.
Ils étaient ensemble. Peut-être qu'il y a aussi ça. Ça, nous, on n'en parle pas, mais je veux dire, c'est aussi des humains. Quand on rentre chez soi, on ouvre sa porte et rentre, on est vraiment.
Oui,
on est
d'ailleurs, dans la question. Non, mais je veux dire. La question, Carlos, c'est celle-là. Il n'y a pas répondu encore. Est-ce que vous pensez, Carlos, est-ce que tu penses que
je peux te dire, et stratégiquement, je peux trouver qu'il y a une petite perturbation stratégiquement parce que Guardiola il connaît les défauts de toute cette équipe là de Barça individuellement.
Sur le style de jeu.
C'est les seuls trucs.
Mais psychologiquement,
mais après, on les vend très
bien
à la presse, au public. Mais et stratégiquement, s'il y a quelque chose de sortir qui peut perturber énormément, Guardiola il connaît un par un tous les joueurs qu'il y a au Barça.
Ah non, c'est pas possible.
Il connaît les défauts de Bercy.
Non, on ne peut pas dire ça. Je peux pas accepter ça dans la mesure où c'est-à-dire que du gardien de but, gardien de but, il ne le connaît pas. Vous, lorsque vous essayez de regarder aujourd'hui, Abidal n'est peut-être plus là. Peut-être vous croyez qu'il joue encore là-bas. Peut-être que vous croyez que Pedro joue toujours là-bas.
Oui,
peut-être
Pujol,
que Villa, vous croyez que Villa,
Thierry Henry
joue là-bas. Vous êtes convaincu que Puyol continue à jouer là-bas. Donc, à une certaine période,
Samuel Eto'o est encore là-bas.
J'ai dit à l'équipe de la Juve, il a 5 ans, mais le Barça dit il a 5 ans aussi.
Ses remplaçants, c'était qui? Il fallait faire entrer Cuenca, Deulofeu
et Tello.
Et Tello. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. C'est eux qui connaissent. Il connaît qui là. Et de toutes les façons, ce n'est plus le tiki-taka qu'on faisait là dans la mesure où aujourd'hui, les bases de ce nouveau Barça viennent à 35 mètres. Crier. C'était pas possible à l'époque de Guardiola. 35 mètres.
Prenez une respiration, Rémi.
Oui. Je voulais pas les boire dans un restaurant avec un assiette froide. Vraiment. Non, mais par contre.
J'ai de la ventoline dans mon sac.
Ah oui.
Carlos, la question.
Combien de joueurs ils sont changés? Dans les 11 titulaires.
3, 5 ou 7.
Voilà.
Neymar à l'attaque a changé. D'accord?
Oui,
Luis Suarez à l'attaque a changé. Et Messi a changé parce que Messi est déjà à droite.
Oui,
il n'est plus à la pointe.
Il n'est plus
un faux numéro 9.
C'est de la science-fiction.
Oui.
C'est de la science-fiction.
Il n'est pas rentable maintenant. Il est allemand.
Messi, à l'époque de Guardiola, jouait un faux numéro 9.
Alors justement, on a parlé de l'élément psychologique. Maintenant, on va parler de l'élément tactique. Qui jouera le plus à la barcelonaise demain soir? Carlos, mais justement,
c'est la question. La question de ces matchs-là, c'est de savoir qui va avoir les cadeaux. Ça veut dire qui va avoir les ballons.
Regalo.
Voilà, c'est ça. Non, le regalo, c'est le ballon. Qui va avoir la possession de la balle. C'est ça, de savoir.
Le Bayern aurait eu intérêt à ne pas l'avoir si Robben avait été là. Pourquoi? Parce que sur les côtés, ça allait très vite avec lui. Là, pour le coup, ils ont plutôt intérêt à l'avoir que pas à l'avoir.
Le Bayern.
Parce que si ils laissent le ballon, ils peuvent jouer en contre, sauf qu'ils ont quand même perdu leur meilleure cartouche, excusez-moi, parce que derrière Cristiano Ronaldo et Messi, s'il y a un numéro 3 depuis quelques années, c'est Robben. Certes, c'est peut-être un autre débat, mais c'est quand même un joueur extraordinaire qu'on a vu à la Coupe
et
du
qui
Monde.
Est blessé.
On l'a vu notamment en demi-finale face au FC Barcelone au Camp Nou. Voilà, on va en faire voir de toutes les couleurs. Pour le coup, je pense que pour le Bayern, c'est quand même compliqué de pas avoir Robben. Et la stratégie aurait dépendu beaucoup de Robben et notamment au niveau de la possession de balle. Maintenant, je pense que, franchement, on peut pas faire de la science-fiction. C'est pas ce qui va se passer. Mais j'imagine, voyant les deux équipes, leur ADN qui est le même, qui est celui de Guardiola, avoir des temps forts où le Bayern a le ballon, des temps forts où c'est le FC Barcelone. Mais je n'imagine pas le Bayern subir complètement et ne jamais avoir le ballon. Non, d'autant qu'ils ont mis des joueurs comme, ils vont peut-être faire jouer un joueur comme Benassia derrière, qui est plutôt un joueur de ballon, qui va pas non plus dégager.
Non, mais les questions, c'est parce qu'on se demande si maintenant c'est pas le Bayern qui joue plus à la barcelonaise que le Barcelone d'aujourd'hui avec Luis Enrique.
La philosophie, c'est exactement la même. La même.
Oui, mais la manière de jouer n'est plus.
Oui, mais il n'y a pas Messi.
Je vois pas Guardiola de dire à ce joueur, allez,
laisse
on va
le ballon.
Voilà, non.
Non, moi je vais dire, le Bayern d'aujourd'hui est devenu le faux Barça. Et le Barça d'aujourd'hui est devenu
le vrai Bayern, c'est ça?
Le vrai Bayern. C'est la vérité.
Ne t'énerve pas.
Et quand vous me parlez de la possession tourne exactement de la même façon. Parce que ça s'est encore accentué cette année. Parce que en phase de poule, la saison dernière en Ligue des Champions, le Bayern de Munich avait tout simplement 4185 passes pendant que le Barça avait 4885 passes. Cette année, le Bayern est passé devant le Barça. Ce qui signifie que le Barça joue plus direct dans la verticalité, pendant que le Bayern aujourd'hui tourne en rond. Or, le Bayern aujourd'hui est, c'est vrai, d'un élément qui peut déclencher comme Messi, comme Neymar ou comme Madar. C'est-à-dire que Robben, parce que même quand on
Robben
voit
n'est pas là, Lewandowski diminué. Et Ribéry,
à une certaine période. Et au milieu du terrain, qui maintenant, le jeu du Bayern va se reposer sur qui? Sur Thiago Alcantara. Oui, Thiago Alcantara, il était au banc au Barça. Il avait joué 101 matchs, dont 63 comme titulaire, pour à peine 11 buts. Donc, à une certaine période, vous vous retrouvez de l'autre côté Iniesta, qui est en train de se régénérer, et qui devrait être opposé à celui-là qu'on dit qu'il est le dépositaire, le nouveau dépositaire du jeu, puisque Götze va déjà plus sur les côtés, au milieu du terrain. Le jeu du Barça est basé sur le milieu du terrain, sur la possession. Donc du coup, je peux vous dire que le Barça peut avoir la même mise sur le ballon plus que le Bayern, mais qui est en train de reconvertir Philippe Lahm en milieu de terrain.
Bon, en tout cas, voilà ce qui peut se passer.
Et il y a un problème africain qui dit « Un vieil arbre sans santé meurt ». Ce qu'on est en train de vouloir transplanter aujourd'hui au Bayern, il n'était pas habitué à ça. Alors là, copier le Barça pour faire du faux Barça contre le vrai Barça, on voit le résultat.
En tout cas, on va voir ça, mais ce qu'on peut se dire aussi, c'est que le Bayern est quand même la bête noire du Barça.
Une seule défaite en 8 matchs. Il y a 5 victoires pour le Bayern, 2 nuls et une défaite.
Et alors, c'était récemment,
une époque assez récente. Tous ces joueurs sont encore là, si on a bien compris là tout à l'heure. Il y a encore Thierry Henry, il y a encore Samuel Eto'o. Ah, il y a Messi qui avait marqué deux fois. Il y a un 4-0 de Barcelone face à Munich. C'était le 8 avril 2009. On se souvient d'un 4-0 en faveur du Bayern Munich. On se souvient surtout de la dernière confrontation.
Seulement de Barça, 7-0 sur deux matchs.
Il y a quand même un favori.
On ne parle pas tous en même temps.
Je disais quand même, les chiffres, c'est vrai que c'est bien. C'est important. Ça nous permet d'avoir une perspective.
Non, mais Nabil, on se souvient de la dernière confrontation.
Oui.
Le Bayern a humilié le FC Barcelone.
C'est vrai, ça a fait plaisir.
Et ce n'était pas Pep Guardiola, c'était Jupp Heynckes. Ce n'était pas non plus Tito Villanova, c'était Jordi Rora à l'époque. Et il y a eu une humiliation terrible. On croyait que c'était, vous vous souvenez, la fin du Barça.
Et ça a fait plaisir à beaucoup de gens, parce que vous savez, on aime voir tomber de son piédestal le dominant. Donc pour le coup, c'était un peu aussi peut-être
il jouait peut-être moins bien aussi qu'avant.
Non, et puis en face, bon, il y avait quand même des extraterrestres, hein. Souvenez-vous, Robben, il était plein de bourre.
Ils sont libérés, extraterrestres du côté du Bayern.
Ils sont plus là, et donc ce soir franchement, il faut se dire demain soir, pardon, il faut se dire clairement les choses. Le favori, c'est le FC Barcelone, mais tous les jours.
Bien.
L'impression qu'il laisse en championnat, elle est extraordinaire. Les trois devant, franchement, est-ce que vous attendiez
contre le Paris Saint-Germain?
Est-ce que vous attendiez à retrouver une telle association de bienfaiteurs
contre
FC
le Paris Saint-Germain? C'est pas une bonne comparaison, Annie, parce que le Paris Saint-Germain jouait en deuxième division lors de ce quart-là. Franchement, le Paris Saint-Germain n'a pas été au niveau ni à l'aller ni au retour. Moi, je pense que ce sera plus équilibré que ce que vous voulez dire.
En plus, Luis Enrique, qui est l'héritier de Guardiola, à remobiliser des joueurs. Je pense notamment au monsieur de Madame Shakira, Piqué, qui avait pas été très
tout
bon l'année dernière.
Non,
mais franchement, là, il fait une très bonne saison pour le coup. L'année dernière, on s'interrogeait. Il fallait recruter des défenseurs. Un recrutement intelligent, Mathieu. C'est vrai que moi, j'étais surpris de le voir arriver.
Il sera pas là.
Mais j'étais surpris de le voir arriver pour 20 millions d'euros de Valence au FC Barcelone. On se rend compte que c'est une super bonne pioche. Maintenant,
c'est
pour ça qu'il est au banc. Pardon?
C'est pour ça qu'il est au banc là?
Pardon?
Non, c'est parce qu'il est blessé.
Non, mais ça s'appelle le turnover.
Il est blessé.
Rémi, ça s'appelle de la gestion d'effectifs.
Il n'était pas blessé.
Non, mais voilà, il faut se dire clairement les choses. Le FC Barcelone est favori, et c'est pas le Bayern de Jupp Heynckes.
C'est vrai
avec
que c'est
Robben et Ribéry qui sont à un niveau stratosphérique.
Peut-être.
Capable d'être ballon d'or. Qui peut être ballon d'or au FC Bayern là, aujourd'hui?
De toute façon,
personne.
On
réfléchit.
C'est toujours Ronaldo ou Messi.
Carlos, une chose quand même, le faux pas quand même du Bayern l'autre jour à Porto, où ils ont pris beaucoup de buts et où on s'est demandé ce qui se passait, ça peut être aussi dans la tête deux.
Ça veut rien dire, parce que
trois fautes individuelles, trois erreurs individuelles.
Voilà, évidemment. Et pour les CSAC qu'il vient de dire Olivier tout à l'heure, c'est pas seulement face au Barça, sinon une équipe espagnole face à une équipe allemande. Attention, danger. Parce qu'ils ont les statistiques pour les Allemands, à favor des Allemandes.
Ouais, il y a le match retour là-bas, surtout.
Ah, mais s'il y a le match retour, voilà. Donc, je les vois pas favorables au Barça. Je les vois beaucoup plus équilibrés, même un petit peu plus des côtés allemands.
Annie,
il faut le dire.
Je voudrais répondre à Olivier. Plein de gens sont en train de regarder la véritable fessée que Porto a eue. Les gens oublient que ce Porto-là, avait été diminué sur les côtés où le Bayern avait profité.
Au match retour.
Oui, bien sûr. Qui a regardé la deuxième mi-temps de ce match où Pep ne s'est même plus assis? Parce que le Bayern avait été acculé par totalement ce Porto, et le Bayern n'a marqué qu'un seul but à la deuxième mi-temps.
Sur 5-0 à la mi-temps.
5-0 à la mi-temps.
Il suffisait.
5-0 après 3
minutes. Mais c'est vrai qu'il suffisait à un moment.
Il suffisait d'un but que Porto marque.
Non, mais là, c'est tiré par les cheveux.
Mais c'est pas possible.
C'est tiré par les cheveux. Tu mets 5-0 à la mi-temps, tu décompresses.
5-0 à la mi-temps, 6-1, score final.
Non, mais attends, on mène 10-0, peut-être qu'on
joue. Mais pourquoi l'entraîneur ne décompressait pas? Pourquoi il sautait jusqu'à déchirer
son travail?
Pourquoi il déchirait les pantalons?
Il fait son travail.
Attendez, mais c'est pas possible.
Parce qu'il faut fatiguer d'abord l'équipe. Attendez, tu vois,
physiquement, Shakira a déchiré le pantalon de
Je vais vous donner une info. Guardiola risque d'avoir plus de travail face au FC Barcelone ce soir que lors de la deuxième mi-temps face à Porto.
En tout cas, espérons que le spectacle demain sera sur la pelouse aussi intéressant que ce débat.
Il le sera.
Une équipe d'Allemagne qui est déjà championne, qui ne pense qu'à une finale à Berlin, et face à un Real qui lui espère là-bas du côté de l'Italie défendre son titre. Ça risque d'être effectivement très intéressant, tout cela, et le Barça au milieu avec la Juve. Alors la version africaine de la Ligue des Champions, le tirage au sort a eu lieu ce matin, c'était au Caire. Alors c'est une formule un peu particulière, hein, Olivier, on compare ça au play-off de basket américain, puisqu'on a deux groupes qui sont formés à l'issue en fait des tirages au sort. On a un groupe B, alors on parle du groupe B avant le groupe A, mais pour une raison, c'est que toutes les équipes algériennes se sont retrouvées là.
Oui, c'est assez particulier, on peut se demander, je pense que Nabil ne manquera pas de réagir, on a tous été très surpris ici de retrouver trois équipes d'un même pays, alors ça c'est plutôt bien, ça prouve que le football algérien décidément va bien, même si la sélection
n'est pas assez bien pour organiser la CAN 2017 en tout cas,
ouais. ça c'est un autre débat, on n'a pas assez de temps, mais c'est vrai que on les attendait sur la dernière CAN, ils se sont arrêtés en quart de finale, mais on sait que cette l'une des deux meilleures équipes africaines du moment, les
Fenech.
Et là, c'est vrai qu'on se retrouve avec le tenant du titre, l'Entente de Sétif, l'USM Alger. Alors là, pas de surprise, hein, sont deux habitués. On savait qu'il y en aura au moins deux de ces équipes algériennes dans la même poule, mais on se retrouve avec l'invité surprise de cette phase de poule, le Mouloudia El Elma, qui est entraîné, il faut le signaler, hein, par Jules Accorsi, entraîneur corse, 78 ans, hein, Annie. 78 ans en juin prochain et grand voyageur, hein. Madagascar, Oman, Vietnam, que ce soit Hanoï ou Ho Chi Minh. Il est passé par le Maroc, par l'Algérie, il a même été sélectionneur de la République centrafricaine et il amène ce club venu de nulle part. Ulma est présent en Ligue des Champions parce que la JS Kabylie a été disqualifiée après la mort, tragique de Debossé, le joueur camerounais, l'été dernier. Ils sont 11e du championnat algérien. Ils découvrent donc la Ligue des Champions cette saison et ils se retrouvent en phase de poule.
Justement, c'est cette équipe qu'on connaît moins, je peux vous en parler un peu, les autres.
L'Alma, ouais, c'est une équipe qui se situe...
Fondée dans les années 30, je le rappelle, ça s'appelait à l'époque le Mouloudia Saint-Arnaud.
Ouais.
C'est vrai.
Ouais, je l'apprends, merci Olivier.
Enfin, c'est à 30 km de Sétif. Hein.
Alors, je vais vous donner une autre info parce que l'USM Alger, ça s'appelait l'AS Saint-Eugène à l'époque, donc où
du
la
quartier.
France.
On va faire tous les prénoms.
D'Alger.
Non, mais l'Alma, c'est une ville qui est située non loin de Sétif, donc
30
on va avoir un derby des hauts plateaux puisque c'est la région des hauts plateaux algériens. Donc, c'est vrai qu'elle est un peu à l'image de son entraîneur que vous avez bien narré. Il s'est fait expulser lors du match face à Sfax à 78 ans. Je vais vous dire qu'il a un caractère trempé. C'est une équipe qui, c'est une aventure humaine avec des joueurs qui sont voilà solidaires. Il y a un joueur qui sort un peu du lot. Je vous en parle comme ça pour l'anecdote. Peut-être qu'on en entendra parler pendant ces qualifications. C'est Chenihi. C'est la découverte un peu de Christian Gourcuff qui lui a offert quelques sélections avec l'Algérie, notamment face au Qatar et à Oman. Maintenant en Algérie, c'est vrai qu'on est un peu surpris de se retrouver avec trois équipes sur quatre dans la même poule. Alors on se dit bon, il y a de fortes chances. Bah, on a déjà obligatoirement.
Il y en aura deux peut-être.
Non, mais on en a obligatoirement déjà une en demi-finale, mais ça va être extrêmement serré parce que on parle de Sétif qui est le tenant, mais il y a aussi l'USM Alger qui est le club de la capitale qui était entraîné par Roland Courbis il y a encore quelques temps de ça, qui a beaucoup d'argent, voilà, qui est un club par lequel est passé un certain Hervé Renard qui est resté 6 mois là-bas.
Donc
en gros, pour faire simple, c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais ça c'est les modalités de la CAF. On a l'impression que c'est un mini championnat d'Algérie avec des Soudanais, des Elmerich, qui vont être très bien reçus. Pourquoi, à votre avis, je vous pose la question? Parce qu'en 2009, les Algériens n'ont jamais oublié que le match de barrage entre l'Algérie et l'Égypte s'était déroulé au Soudan et que les Soudans avaient été très hospitaliers à l'égard des Algériens.
Il faut rappeler que le MAS a quand même un joli parcours. Hein. Ils ont sorti en 32e de finale les Éthiopiens de Saint-Georges, qui sont des habitués de la compétition. Les Ghanéens d'Ashanté Kotoko,
ça c'est pas mal du tout.
Grand nom du football ouest africain. Et puis ils ont sorti le CS Sfaxien au tir au but donc le week-end dernier. Donc un sacré
c'est
parcours.
La curiosité un peu de
pour
du côté
cette
algérien.
Poule qui nous semble quand même autrement plus relevée que le groupe A où
le TP Mazembe
fait figure de favori. Hein. Franchement, le TP Mazembe, 4 fois vainqueur de la compétition, les 2 dernières fois en 2009 et en 2010, ils ont sorti le stade malien au tour précédent. Ils vont être dans la poule avec Smoua, le club égyptien qui vient d'Alexandrie.
Qui sauve l'honneur de football égyptien, qui est malmené.
Première participation à la phase de poule. Ils ont sorti le club des Léopards de Dolisie, le club du Congo Brazzaville. Il y aura également dans ce groupe le Maghreb de Tétouan, les Marocains. Première participation à une phase de poule de Ligue des Champions.
Mais je crois
également
qu'on les a vus au Mondial des Clubs.
Alors eux, ils ont quand même réussi une belle perf. Ils ont sorti le National du Caire, quand même, le week-end de dernier. Et puis enfin, un autre club soudanais dans cette poule, El Hilal.
Qui est plutôt une bonne équipe.
Voilà. Mais a priori, pour le TP Mazembe, qui
c'est
pourrait jouer
deux,
à son niveau, ça sera un ou deux.
Et justement, écoutons le directeur
technique
de cette équipe du TP Mazembe, Frédéric Kitenge, au micro de Frédéric Nkena, notre correspondant qui était au tirage au sort ce matin au Caire.
C'est un bon tirage pour nous parce que ça nous permet de jouer avec les équipes éparpillées, surtout des nouveaux venus, Maghreb d'Étoile du Maroc ou Samoa d'Égypte. Ce sont les arrivants qui ont créé quand même assez de secousses en éliminant les grands de la compétition. Et puis, en prenant Al-Hilal, nous évitons de prendre aussi Al-Merriek parce que ça aurait été une confrontation avec notre ancien entraîneur Diego Garzito, qui est au Al-Merriek. Et vous vous rendez compte que le groupe B est un groupe purement algérien. Alors, c'est un bon tirage. Je crois que c'est un groupe prenable. Le TP Mazembe doit faire tout pour prouver sa place. Parce qu'aujourd'hui, à ce tirage au sort, on a bien compris que c'est le TP Mazembe qui est aujourd'hui le plus grand club d'Afrique.
Le TP Mazembe,
le
plus grand club d'Afrique, dit-il. En tout cas, il se retrouve dans cette compétition où, dans ce groupe A comme dans le groupe B, il faut que les deux premiers réussissent à donc être aux deux premières places pour se qualifier pour les demi-finales. Rémi, qu'est-ce que vous diriez, vous, sur ce tirage au sort?
La première des choses, il faut rectifier. Le tout-puissant Mazembe n'est pas le plus grand club d'Afrique.
On vient de le faire, hein, de rectifier.
Voilà, donc quand on essaie de qualifier les 100, il n'est pas là.
Mais c'est normal
là,
que le directeur technique.
Ils ont un beau palmarès, mais également ils sont pas aussi avantagés comme les gens le croient. Parce qu'il faut regarder aujourd'hui le championnat congolais. Est-ce que ce championnat est compétitif? Il ne l'est plus. D'autant plus que la phase même retour est compromise, à peu près comme l'année dernière. Est-ce que donc ce tout-puissant Mazembe qui avait souvent quand même l'habitude d'aller en compétition continentale, étant bien armé sur le plan du championnat, mais du moment où ils ne sont pas actuellement assez préparés,
moins aguerris.
Moi, je ne peux pas dire que c'est un très bon tirage pour eux. Le tout-puissant Mazembe ne fait plus terriblement peur parce que, vraiment, il y a beaucoup de désordre dans l'organisation du championnat congolais.
Enfin, il y avait quand même 3 clubs congolais en compétition, enfin 4 au départ, il y en a encore 3, puisqu'il y en a 2 qui sont encore qualifiés dans la Coupe de la Confédération dont on va aborder le tirage au sort.
Et oui, justement parce que c'était 2 tirages au sort, alors celui-là, Coupe de la Confédération, beaucoup de clubs, et il y a des affiches aussi très intéressantes.
Ça fonctionne un peu comme un peu en Europe.
Ça fonctionne pas pareil.
Ah, elle lève les yeux au ciel, elle a dit. Il y a un tour de cadrage. Bah, finalement, ça existe aussi en Europe. On rappelle que les éliminés de la phase de poule, les troisièmes de la phase de poule de la Ligue des Champions, sont reversés en Ligue Europa. Ben là, les éliminés du tour précédent, du tour du week-end dernier dans cette Ligue des Champions, eh bien, ont une chance encore. Ils sont reversés en Coupe de la Confédération. Là, il y a de belles affiches parce que
bah, c'est presque plus solide que la C1.
Il y a des éliminés le week-end dernier, comme l'Espérance de Tunis. Hein, c'est la première fois depuis 5 ans qu'ils ne disputeront pas la phase de poule de la Ligue des Champions. Le CS Faxien, le National du Caire, bah, tous ces gens-là, ils sont là. Alors, on a des affiches. Le National du Caire contre le club africain, qui est un club tunisien. On a l'Espérance de Tunis face à Herzogfaux, les Ghanéens. Ça aussi, c'est du solide. Il y a le CS Faxien face à l'ASEC Mimosa. Ça, c'est quand même une belle affiche. Le Stade Malien, qui a été éliminé de justesse par le TP Mazembe, bah, qui va retrouver un club congolais, mais cette fois d'un peu plus au nord, c'est-à-dire de Kinshasa, le Vita Club de Florent Ibengue. Et puis, il y a le Raja de Casablanca, qui va aussi affronter
l'étoile du Sahel. Ouais, du Sahel, pardon.
Ça, on a quand même du lourd, là. C'est un bon gros cadrage.
On a du lourd sur du papier et sur des noms. Ah. Et il manquait une chose. Il fallait qu'on mette là. Il fallait qu'on mette là également, dans la liste des morts vivants là. Il fallait mettre l'Orix de Douala. Qui a quand même remporté la première coupe de coupe
sur le papier.
Il fallait mettre également mais Union de Douala.
Sur le papier, Juventus Turin, Real, c'est super. Et si ça se trouve, on va s'ennuyer ce soir, Rémi.
Mais c'est pas
pour l'anecdote, juste pour l'anecdote.
Vous êtes levé pour le combat de boxe samedi, vous avez fait partie de ceux qui se sont fait avoir par le combat du siècle, non? On peut jamais savoir avant ce que ça va donner.
Une belle affiche entre.
Il était bon pour
Et une belle affiche entre l'étoile du Sahel et le Raja, mais l'étoile du Sahel devra certainement faire sans son attaquant Bagdad Bounedja, qui a été vendu, ça c'est pour vous donner la petite anecdote, 3,5 millions d'euros au Qatar. Par l'étoile du Sahel.
Tous les détails sur ces matchs et toutes les dates des matchs aller et retour, c'est sur la page freakfoot.rfi.fr. C'est la fin de Radio Foot International. Merci à tous, messieurs. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. À la réalisation, il y avait Abdel Marzouk. Et on se retrouve bien sûr demain pour parler encore de ces demi-finales.